Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grands Mots, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il y a Whirlpool à Amiens, devenu le conflit social emblématique de cette présidentielle. Et il y a tous les autres, moins médiatiques et pour cause. Le JDD expliquait avant-hier qu'à Bercy, les dossiers économiques sensibles font l'objet ces temps-ci d'une attention toute particulière, le temps de laisser passer l'élection. Et ensuite, réponse du même journal, une série de restructurations devrait marquer, cette fois encore, le début du quinquennat du futur président. Or, pour les syndicats de salariés, la période qui s'ouvre s'annonce donc chargée et d'autant plus compliquée à négocier que leur place n'est pas acquise dans le dispositif imaginé par chacun des candidats à la présidentielle. Marine Le Pen plaide pour ce qu'elle appelle une véritable liberté syndicale pour permettre à de nouvelles organisations d'émerger, donc réduire l'influence de celles déjà en place. Emmanuel Macron entend renouveler le dialogue social en le changeant de niveau, priorité aux négociations d'entreprise ou de branche, et pour y parvenir, il entend réformer le code du travail par ordonnance. Alors présidentielle, les syndicats ont-ils tout à perdre ? C'est une question que nous posons dans le cadre d'un paysage syndical récemment recomposé, puisque la nouvelle mesure de la représentativité publiée à la fin du mois de mars modifie la hiérarchie, en tout cas au sommet, puisque c'est la CFDT qui est désormais première dans le secteur privé devant la CGT. Viennent ensuite Force Ouvrière, la CFE-CGC et la CFTC pour être complet avec les organisations représentative. Et parmi nos invités de ce soir, trois représentants de trois de ces organisations représentatives, à commencer par vous, Véronique Descaques, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire générale adjointe de la CFDT. CFDT première, qu'est-ce que ça change d'ailleurs concrètement du point de vue de l'action syndicale, si ça change quelque chose?
Disons que ça donne probablement une responsabilité encore plus grande pour être efficace auprès des salariés dans les entreprises. C'est à la fois la reconnaissance de l'efficacité passée et une responsabilité plus grande pour l'efficacité à venir.
Je vais poser la même question, sachant que ça n'est pas tout à fait le même contexte pour vous à la CGT. Catherine Perrier, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale de la CGT, vous y êtes en charge de la formation initiale et professionnelle. Passer de la première à la seconde place, ça donne du coup alors moins de responsabilités que quand on est premier?
C'est pas tout à fait l'analyse qu'on fait, puisque la CGT est toujours la première organisation. Si on prend en compte l'ensemble du champ, à la fois privé, petite et moyenne entreprise, grande entreprise et surtout fonction publique. Donc on a toujours la même responsabilité et on espère bien être avant tout de plus en plus proche de tous les salariés tels qu'ils sont. C'est peut-être ce qui nous a manqué ces derniers mois.
Sauf erreur de ma part, dans la précédente mesure, la CFE-CGC était quatrième, elle l'est toujours, mais en progressant un petit peu. François Omeril, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui présidez la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement, quatrième organisation traditionnellement absente des défilés du 1er mai. C'était encore le cas hier, même si j'imagine que certains militants pouvaient se retrouver dans certains rassemblements ou dans certaines manifestations. Mais pour quelle raison, d'ailleurs, la CFE-CGC ne participe pas en général à ces marches du 1er mai?
Je m'en tiendrai à dire que c'est une tradition chez nous de ne pas participer au rassemblement du 1er mai, pour la raison peut-être que ils sont souvent sous l'égide de mots d'ordre pour lesquels nous n'aurions pas forcément, compte tenu de l'exercice, nous n'aurions pas forcément l'adhésion totale à ces mots d'ordre, mais ce qui n'empêche que nous participons totalement au dialogue social. Et comme vous l'avez souligné, nous avons beaucoup progressé lors de la dernière mesure. C'est le signe de la qualité de nos militants et de l'engagement sur le terrain de nos militants. Et donc c'est ça pour nous, au-delà du concours permanent qu'il y a de classer les syndicats les uns avec les autres. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir classer l'action et l'utilité de notre action sur le terrain.
S'agissant du 1er mai, j'ai vu qu'il y avait eu une exception dans l'histoire de la CFE-CGC, c'était 2009 où il y avait un front uni, on était en pleine crise économique mondiale et à l'époque, un de vos prédécesseurs, Bernard Van Krenest, disait cette unité syndicale se poursuivra aussi longtemps que durera la crise. Est-ce que ça veut dire que du point de vue de votre syndicat, la crise est terminée ou en tout cas c'est suffisamment, disons, essoufflé pour ne pas avoir eu besoin de renouveler cette présence exceptionnelle?
Non, c'est pas notre analyse, la crise n'est pas terminée, la crise dure depuis 10 ans. Elle prend des formes différentes au cours des années et elle sollicite une unité syndicale la plus efficace possible. Je pense que la question du défilé du 1er mai, elle n'est pas anecdotique, mais elle n'est pas essentielle en fait. Ce qui compte effectivement, c'est de pouvoir tomber d'accord sur un certain nombre de sujets pour pouvoir renforcer notre efficacité ensemble.
On va dire que ce défilé du 1er mai, en tout cas, il a une valeur symbolique importante. Quel est le bilan que vous tirez à la CFDT, à la CGT de celui d'hier, la mobilisation? Alors je vais me tenir aux chiffres du ministère de l'Intérieur, mais ce qui permet aussi de faire des comparaisons, 142 000 personnes hier contre 84 000 il y a un an, alors qu'on était dans une phase plutôt d'essoufflement, on va dire, de la mobilisation contre la loi travail. Mais évidemment, le repère qui est le plus avancé depuis hier, c'est celui 2002. Du 1er mai 2002, où il y avait 1 300 000 personnes, là aussi, chiffre du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes déçu du coup de cette faible mobilisation, Véronique Gascac?
On est surtout préoccupé parce que, alors en vérité, la situation ne peut pas vraiment se comparer à 2002, parce que 2002, c'était vraiment un choc, c'était une surprise, alors que là, la présence du Front National au second tour, on la voit venir de loin. Il y a peut-être même eu une espèce de soulagement de la part d'un certain nombre de citoyens de voir que Madame Le Pen était arrivée seconde alors qu'on la donnait première depuis longtemps. Et en même temps, une préoccupation très forte à la CFDT parce qu'il nous semble que les risques sont plus élevés encore qu'en 2002. En 2002, on voyait bien qu'il y avait peu de chances qu'elle soit élue. Il y avait eu un front républicain qui s'était mobilisé tout de suite, etc. Aujourd'hui, à la fois, elle fait beaucoup plus de voix. Et à la fois, le jeu politique est beaucoup plus troublé avec la destruction, quasi la disparition des partis républicains traditionnels, le grand trouble dans lequel sont les citoyens qui n'ont plus tellement de repères finalement, et y compris un certain nombre de repères idéologiques qui sont tombés. On voit bien qu'il y a une partie de la gauche qui avait été très claire en 2002 sur son opposition au Front National, et là maintenant on les entend dans une espèce de dialectique un petit peu curieuse, pour ne pas dire extrêmement problématique, essayer de renvoyer dos à dos les deux candidats au second tour. Donc tout ça nous paraît extrêmement dangereux et extrêmement préoccupant. C'est la raison pour laquelle on a voulu passer un message fort. Alors certes, on était moins nombreux. En même temps, le 1er mai qu'a voulu la CFDT, c'est aussi un 1er mai très citoyen, pas seulement avec des syndicats, puisque on y reviendra, on n'a pas pu tous tomber d'accord, mais avec beaucoup d'associations de la société civile qui se sont joints à nous.
Un message fort, mais qui manquait peut-être de clarté. Est-ce qu'on savait véritablement pourquoi on allait manifester, si on manifestait hier, 1er mai, Catherine Perret?
Alors l'appréciation de la CGT et puis des organisations syndicales et de jeunesse hein, qui ont défilé avec nous, notamment à Paris, mais pas seulement sur le territoire, c'est que il y a eu deux fois plus de manifestants qu'en 2016, alors qu'on était l'an dernier dans une période encore très très conflictuelle. Ça montre pour nous, l'analyse qu'on a fait, qui n'a pas convaincu l'intersyndicale, mais c'est comme ça, c'est la vie, qu'on est dans une période où les gens attendent beaucoup, justement, de changements, des évolutions quant à leur salaire, leurs conditions de travail, et que cette conflictualité qu'on voit dans les entreprises, elle s'est traduite par une volonté de défiler sur des mots d'ordre revendicatifs et syndicaux, et pas seulement sur le rassemblement pour faire barrage au Front National, même si, pour nous, c'est très clair, à la CGT, le Front National, c'est le parti qu'il faut combattre, contre lequel il faut se mobiliser. C'est un parti qui est contraire aux intérêts des salariés, mais pour nous, c'est justement les déceptions en matière de loi travail, en matière de conditions de travail, en matière de salaire, qui constituent le terreau, justement, sur lequel se nourrit le Front National, et donc il fallait pour nous les deux. Et somme toute, nous sommes assez contents d'avoir réussi à mobiliser de manière très significative, y compris à Paris hier. On peut regretter bien sûr évidemment les événements autour de la manifestation qui nuisent au message syndical.
Sur la question du Front National, François Emeril, quelle est la position de la CFE-CGC, puisqu'on vient d'entendre celle de la CFDT et de la CGT?
Donc la position de la Confédération, on l'a rappelé dans un communiqué qui faisait suite à un comité directeur le lundi juste après l'élection, elle a été de rappeler que nos statuts sont indépendants de tout parti politique, et donc nous en sommes tenus à ça, et nous avons rappelé cette indépendance et abstenu de donner toute consigne, rappelant que nous défendions des valeurs syndicales et renvoyant chacun à l'examen de ces valeurs-là au moment de se déterminer dans son vote.
Alors, je ne vais pas aller plus avant hein, dans la prise de position, on va dire, par rapport aux deux candidats, mais je voudrais quand même vous les faire écouter l'un et l'autre dans ce qu'ils disent et du rôle des syndicats et de la place du dialogue social pour voir comment vous envisagez par la suite de travailler ou de ne pas travailler, peut-être d'ailleurs avec le nouveau pouvoir qui se mettra en place. Alors, Marine Le Pen, c'est un peu compliqué d'ailleurs de trouver des choses un peu précises sur les syndicats. Alors, il aurait peut-être fallu faire des recherches un peu plus approfondies, mais enfin, ce qu'on a trouvé d'assez significatif, d'après nous, c'est une interview qu'elle avait donnée en novembre 2013. C'était dans un journal télévisé sur France 3 et elle trouvait que, décidément, les syndicats, en tout cas ceux qui sont représentatifs, ceux que vous représentez ce soir dans cette émission, coûtaient particulièrement cher aux contribuables.
Des centaines de millions d'euros qui sortent de la poche des contribuables français pour financer les syndicats, pour lutter contre le populisme, c'est-à-dire contre la démocratie, c'est ça? Parce qu'en fait, ce qu'ils ont peur, c'est le résultat des urnes. Bon, plutôt que de lutter pour la défense des intérêts de leurs salariés, eh bien, je pense que les salariés apprécieront d'ailleurs de se faire traiter par les syndicats de gauche, de fascistes, de poujadistes, de je ne sais quel autre adjectif. Voilà, ça prouve que les syndicats ont perdu la main, car ils étaient, en réalité, leur rôle était de canaliser la colère, de faire accepter aux salariés des choses inacceptables. Ils ont fait ça pendant des années. Sauf qu'aujourd'hui, les salariés, ils ont compris. Et ils se détournent des syndicats. Ils ont compris que les syndicats et les partis politiques de gauche étaient main dans la main. Et donc, les syndicats se retrouvent ennemis des salariés qu'ils sont censés défendre. Eh bien, je vais vous dire, tant mieux, le masque tombe.
Voilà, Marine Le Pen en novembre 2013. Alors, pour être tout à fait équilibré, disons, Marine Le Pen, elle a quand même un petit peu adouci son discours dernièrement à l'égard des syndicats. On l'a vu, par exemple, avec sa visite à l'usine Whirlpool d'Amiens. Puis un peu plus tôt, en février, elle avait, à la demande d'ailleurs, l'invitation d'un syndicaliste de Force ouvrière, elle avait visité la prison de Meaux. Elle disait que c'était toujours intéressant pour un candidat à la présidentielle de rencontrer un syndicaliste. Hypothèse, Marine Le Pen est élue au second tour. Est-ce que c'est une option à laquelle vous avez réfléchi dans vos organisations respectives et est-ce que vous dites, bah voilà, il va bien falloir travailler de toute manière avec le pouvoir en place et de quelle manière ce travail pourra se faire, Catherine Perret, à la CGT?
Alors pour nous, c'est inenvisageable. Marine Le Pen sera battue dimanche soir et la CGT fait depuis des mois campagne pour faire battre le Front National partout, dans toutes les élections, et pour le faire reculer partout dans les entreprises. Parce que pour nous, le Front National, c'est pas un parti comme un autre, c'est un parti avec qui nous refusons de dialoguer, c'est un parti avec qui nous n'aurons pas de relations si toutefois ils arrivent aux responsabilités, d'ailleurs que ce soit au niveau régional ou au niveau national, c'est un parti anti-syndical.
Pardon, ça voudrait dire quoi ne pas avoir de relations? Ça voudrait dire par exemple sortir de certaines instances du paritarisme qui ont un lien avec l'État? Enfin,
Le paritarisme, c'est un autre sujet, mais par contre, les liens avec l'État n'auraient plus de raison d'être pour nous, CGT, si le Front National était élu le 7, mais ce que je ne peux pas envisager. Nous, dans les meetings de Marine Le Pen, on fait siffler la CGT. La CGT est la cible du Front National, parce que justement, elle nous trouve toujours sur sa route, pour dénoncer justement un parti xénophobe, anti-femmes, anti-droits des salariés. C'est aussi le libéralisme, le Front National, il ne faut pas l'oublier.
Hein. On fait aussi siffler les journalistes dans certains meetings, ça n'empêche pas les journalistes de continuer
oui,
à travailler avec...
Mais nous, on s'honore presque que justement la CGT soit une cible pour le Front National, parce que ça montre bien que le Front National est un parti qui est en contradiction avec le respect des valeurs syndicales, et pour nous, plus aucun contact avec un gouvernement s'il était Front National.
Du côté de la CFDT, Véronique Descraques.
Alors, notre engagement pour faire battre Marine Le Pen, il est total et on l'a démontré le 1er mai, mais on le démontre depuis des années. On s'est toujours opposé au Front National parce que, comme ce que vient de dire Catherine, on considère que ce n'est pas un parti comme un autre.
Pourquoi
ça serait difficile d'aller discuter ou d'aller négocier avec elle? C'est parce que son programme est complètement antagoniste aux valeurs même que porte la CFDT. La xénophobie, l'autoritarisme, l'atteinte aux libertés. Autant on peut avoir des désaccords politiques, et on en a eu avec les précédents dirigeants, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, de gauche comme de droite. On a eu des désaccords, et Quand on a des désaccords, on peut négocier pour essayer de réduire la distance des désaccords, pour essayer de réduire les désaccords. Quand on est sur les valeurs, on ne peut pas négocier avec les valeurs. Le programme de Marine Le Pen a toutes les lignes, il y a de la xénophobie. On s'en prend aux travailleurs étrangers, on s'en prend aux médecins étrangers, aux footballeurs étrangers, enfin tout ce qui vient de l'étranger. On explique que c'est l'étranger et les individus venant de l'étranger qui sont la cause de tous nos maux. C'est aussi un programme extrêmement autoritaire, un programme qui explique qu'elle s'en prend aux syndicats qui sont en place. Pourquoi ? Parce qu'elle voudrait bien instrumentaliser des organisations syndicales proches du Front National. Bon. Donc, sur les valeurs, il n'y a pas de négociation possible. Qu'est-ce que vous voulez discuter ? On ne va pas discuter un petit peu moins de xénophobie, s'il vous plaît. C'est impossible. Donc, je ne vois pas très bien quelle relation on pourrait avoir. Alors, ça n'empêche pas, l'État, c'est autre chose.
Pardonnez-moi, Véronique Descaques, mais vous dites sur les valeurs, il n'y aurait pas de discussion possible. Mais est-ce que c'est le rôle des syndicats que de discuter des valeurs avec le pouvoir en place?
Pardon, mais quand on vous explique qu'on va taxer le travail pour empêcher des étrangers, pour empêcher que des étrangers viennent travailler en France, oui, c'est quand même de la responsabilité première des organisations syndicales de s'y opposer. Rien à négocier, de s'y opposer et de montrer à quel point c'est dangereux. Il faut rappeler ce chiffre, il y a 3,5 millions de Français qui vivent et qui travaillent à l'étranger. Donc c'est aussi mettre nos propres concitoyens en danger que de se comporter de façon raciste et xénophobe avec le reste du monde.
Aurez-vous la même attitude Alors pardonnez, juste je passe la parole à François Omeril et je reviens vers vous, Catherine Perret. À la CFE-CGT, est-ce que vous aurez une attitude aussi, comment dire, inflexible à l'égard du pouvoir, si jamais c'est Marine Le Pen qui est élue? J'imagine que forcément, dans chaque organisation, on pense à cette hypothèse, même si c'est une hypothèse qui n'est pas, de votre point de vue, la plus probable. En tout cas, à la CGT, à la CFDT, je ne sais pas ce que vous en pensez à la CFE-CGC, mais...
C'est difficile de se projeter dans ce type d'avenir. Moi, je voudrais commenter deux choses par rapport à ce qu'on vient d'entendre. D'abord, la première, on entend que les salariés se détournent des syndicats, c'est faux. C'est factuellement faux, puisque le nombre d'accords signés dans les entreprises, je parle du privé, hein, mais c'est documenté, puisque ce sont des chiffres qui sont collectés, le nombre d'accords signés dans les entreprises ne fait qu'augmenter d'année en année, certes très modestement, mais il reste quand même assez présent, au-delà de 30 000 par an.
Et il le est nombre signé... de salariés qui ont participé aux élections de leurs représentants
tout
des entreprises.
Tout à fait, le nombre de salariés augmente. Et là, alors c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une image globale homogène, mais là où les élections sont organisées, le taux de participation, on vient d'avoir les chiffres, est plutôt remarquable. Et ce sont des mobilisations en termes d'électeurs dont, je crois, certaines élections politiques pourraient nous envier le résultat. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur la question du rapport avec le pouvoir... avec le pouvoir politique. Là, on a un problème, effectivement, parce que moi, je pense que l'exercice même du dialogue social au niveau national interprofessionnel agit dans le cadre d'un mandat. Il faut que le mandat soit clair et un mandat part du principe que les acteurs se connaissent et se reconnaissent. Et donc, les acteurs du dialogue social, on est ici pour les représenter, nous avons notre représentativité, elle est dure à obtenir, elle est complexe, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça nécessite un fort travail sur le terrain, nous avons, nous, notre légitimité et notre représentativité, et nous avons notre rôle dans la construction sociale, et il faut que le mandat nous soit donné de travailler par rapport à ce rôle, et si le pouvoir politique ne veut pas le reconnaître, alors effectivement, nous allons avoir un problème.
Mais si le pouvoir politique vous le reconnaît, quelle que soit la couleur politique, vous n'adopteriez pas cette... On peut appeler ça la politique de la chaise vide, c'est comme ça en général qu'on résume les choses, François Omeril.
C'est très difficile de s'engager sur des schémas hypothétiques. La politique de la chaise vide est rarement un bon calcul. Très sincèrement, aujourd'hui, là, au jour où nous sommes, ça m'est assez difficile de m'engager sur quoi que ce soit qui serait une réaction de notre organisation en toute hypothèse. Il faut juger des événements au moment où ils se présentent.
Et puis, je veux reprendre votre expression parce que vous dites « quelle que soit la couleur politique ». Mais la CFDT dit que, quelle que soit la couleur politique, elle va discuter avec les gouvernants. Mais le Front National, c'est différent. Ce n'est pas un parti politique comme un autre. Donc, il n'a pas une couleur particulière. C'est un parti qui n'est pas républicain, qui est autoritaire.
Enfin, qu'elle est autorisée, et si Marine Le Pen est élue, elle sera légitime, elle sera légitimée par le vote.
Elle aura été élue, mais enfin, ça ne sera pas la première fois, hélas, dans l'histoire, qu'un parti autoritaire, xénophobe, qui a des valeurs octogonales avec celles de la République, arrivera au pouvoir. Donc voilà, il faut ne pas banaliser le Front National en disant, quelle que soit la couleur politique, où est-ce que vous choisissez votre couleur politique? Non, à la CFDT, on ne choisit pas notre couleur politique, on va discuter avec les gens qui sont là, sauf que là, c'est pas un parti comme un autre.
Catherine Perret.
Oui, c'est pas un parti parti comme un autre parce que c'est un parti qui prône la préférence nationale. Donc c'est de nature à diviser les salariés. Et c'est pour ça que le syndicalisme est compétent justement pour analyser cette incompatibilité avec les valeurs. Nous, à la CGT, on a syndiqué actuellement plus de 2000 travailleurs migrants avec lesquels on travaille justement à la fois à la reconnaissance de leur droit de travailler dans le pays et leurs conditions de travail. Et nous, on pense que justement, c'est pour ça que le Front National est un parti libéral, que en opposant les travailleurs nationaux et étrangers les uns par rapport aux autres, on fait en fait baisser les droits de tous. Et qu'au bout du compte, ce sont l'ensemble des salariés de ce pays qui sont les perdants. Donc évidemment, à partir du moment où ce parti prône d'opposer les travailleurs entre eux, nous ne pouvons pas le considérer comme un parti comme un autre et ne pouvons pas avoir de contact avec lui. Mais nous le combattrons. Nous le combattrons, même si toutefois elle était élue, nous combattrons ce parti. Pas seulement nous ne parlerons pas avec eux, bien mais sûr, nous le combattrons.
Évidemment. Alors considérons, si vous le voulez bien, la deuxième hypothèse. On est sûr de toute manière d'avoir raison en évoquant les deux hein, ce soir. Le deuxième tour, c'est donc dans quelques jours. La deuxième hypothèse, c'est la victoire d'Emmanuel Macron. C'est un petit peu plus facile de trouver des éléments de ce qu'est sa vision du dialogue social parce que c'est très présent dans son programme. Écoutez ce qu'il en disait. Ben, justement, le jour de la présentation de son programme. Nous sommes le 2 mars 2017.
Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est que la loi définit tout. Notre code du travail augmente constamment, parce que dès qu'on veut améliorer le dialogue social, on réforme la loi. C'est quand même étrange. Donc nous ne sommes pas dans une république contractuelle. Comme je crois au dialogue social, je crois au rôle des syndicats et des partenaires sociaux, mais j'y crois au bon endroit. Pas pour faire de la politique, pour faire du dialogue social. Ce que je propose, c'est une réforme profonde qui consiste à simplifier notre code du travail en disant la loi définit des principes fondamentaux et c'est ensuite à l'accord majoritaire d'entreprise ou de branche de définir ce qui, au plus près du terrain, sont les bons équilibres pour les salariés. Donc c'est une vraie confiance que je fais aux organisations syndicales et patronales, mais au bon niveau.
Voilà, Emmanuel Macron, le 2 mars dernier, je rappelle que nous sommes en compagnie de Véronique Descaques, secrétaire générale adjointe de la CFDT, de Catherine Perret, secrétaire nationale de la CGT, et François Omeril, président de la CFE-CGC. Alors, je ne vais pas vous demander de quelle manière vous envisageriez de travailler avec un pouvoir où Emmanuel Macron serait président, mais sur le fond de ce qu'il dit, qui peut être vu comme une forme d'approfondissement ou d'aggravation de la loi travail votée l'an dernier, avec l'idée d'aller vers davantage de négociations au niveau de l'entreprise, au niveau des branches, et de faire de la loi avant tout un grand socle, mais où l'essentiel des négociations ne se ferait pas. François Omeril, est-ce que c'est une bonne direction pour vous ? C'est quelque chose qui vous inquiète ?
Je pense qu'il y a un malentendu sur l'évaluation des risques. Et je vais rappeler, indépendamment du contexte de l'élection présidentielle, la position qu'on a défendue à l'occasion de la loi El Khomri. D'abord, premièrement, sur le code du travail. On dit le code du travail, il est lourd, il faut le simplifier. Moi, j'ai envie de dire, le code du travail, il est lourd de toutes les tentatives de simplification qu'on a faites depuis 20 ans. C'est un chantier qui peut être ouvert. D'ailleurs, il est prévu qu'il soit ouvert, puisqu'il est prévu dans l'article 1 de la loi El Khomri. Et les travaux sont en cours. Donc, nous, on est tout à fait disponibles pour travailler à ce chantier, dont nous pensons qu'il y a différentes matières pour faire progresser les choses. Donc, on est assez ouvert là-dessus, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, sur l'échelon pertinent de négociation, moi, je veux rappeler que nous sommes favorables, et je pense que nous sommes tous ici favorables, à ce que tout soit mis en œuvre pour que les négociations dans les entreprises se déroulent au mieux. La question qui est posée n'est pas celle-là. Elle est de savoir à quel niveau on met la bonne limite entre l'exercice du rapport de force économique sur le rapport de force sociale. La négociation dans l'entreprise, c'est un rapport de force sociale qui fait que le corps social est vivant. Hein, ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça. Le problème, c'est que les entreprises sont confrontées, on le sait, à un rapport de force économique qui est particulièrement violent. Et vous le citiez tout à l'heure en introduction, la crise n'est pas finie. Donc s'il s'agit effectivement de mettre les représentants dans les entreprises en situation de négocier une dévalorisation de leur statut pour pouvoir répondre aux injonctions du rapport de force économique sans aucun contrôle, ni de la branche, ni de la loi, alors là, effectivement, nous nous ne sommes pas d'accord.
Ça veut dire que pour vous, ça, c'est quand même le niveau national qui reste le niveau qui devrait être prioritaire pour...
Il y a différents niveaux. Il y a le niveau national, interprofessionnel, et il y a le niveau national de la branche, et puis après, il y a le niveau des entreprises. Et nous disons simplement que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour résister à la violence du rapport de force économique, et que c'est justement au niveau national de la branche ou au niveau international interprofessionnel de protéger les gens qui n'ont pas les moyens pour y résister.
Catherine Perret, pour la CGT.
Alors nous avons combattu la loi travail pendant toute l'année dernière, évidemment. Nous, si Emmanuel Macron, une fois élu, veut s'amuser à rouvrir la question, il va nous trouver sur sa route. Ça, c'est certain, parce que nous considérons effectivement, mais comme François le dit, qu'il faut que la loi protège, et notamment les salariés les plus fragiles. 15 jours après la publication de la loi travail en août 2016, les patrons des entreprises du textile, là où les salariés sont surtout des femmes très précaires, qui ont peu de droits, 15 jours après la publication de la loi, les patrons de ces entreprises-là voulaient dénoncer les accords de façon à pouvoir décompter du temps de travail, ce qu'elles avaient acquis pendant au prix de lutte depuis beaucoup d'années, concernant les primes et le temps de reconnaissance d'habillage, de déshabillage de ces femmes dans leur atelier, les questions de pause, etc. On me fera pas croire une minute que c'était une question de survie, de compétitivité pour ces entreprises-là. Ils ont saisi l'occasion pour créer une situation pour affaiblir les droits de ces salariés les plus précaires. Nous, on sera toujours aux côtés de ces femmes-là. D'ailleurs, la CGT est majoritaire de ces entreprises. Elle a empêché la dénonciation des accords. Nous, on est favorable à ce que des accords d'entreprise s'ouvrent, mais c'est le droit du salarié, la négociation, et donc ils doivent s'ouvrir sur des revendications de mieux-disant, de mieux-être pour les salariés et pas pour accepter des reculs sociaux. Donc la hiérarchie des normes, pour nous, c'est essentiel, très important. Ça n'empêche pas que la CGT signe la quasi-totalité des accords d'entreprise. C'est-à-dire que nous, on considère que les trois niveaux sont importants.
Ce qui accrédite peut-être d'ailleurs la thèse selon laquelle, alors c'est ce que dit notamment Emmanuel Macron, que les syndicats font peut-être parfois un peu trop de politique, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui est fait au niveau national et puis au niveau des entreprises, on voit bien que les pratiques ne sont pas toujours totalement cohérentes avec ce qui peut être dit. Mais pour poursuivre sur cette question alors de ces projets qui sont ceux d'Emmanuel Macron, il s'agirait d'ailleurs de réformer le code du travail par ordonnance. On se souvient, Véronique Descartes, que la CFDT, avec certaines réserves sur certains points en tout cas, a validé, disons, cette loi travail l'an dernier.
Et a pesé pour la faire changer, parce qu'il y avait un certain nombre de dispositions, en particulier portées par Emmanuel Macron, qui ne convenaient pas à la CFDT, contre lesquelles on s'est opposé et qu'on a fait enlever de la loi.
Et alors, ce que projette justement aujourd'hui Emmanuel Macron, rouvrir finalement les discussions, parce qu'on voit bien que c'est à ça que ça aboutirait, rouvrir les discussions autour de la loi travail, c'est quelque chose qui vous paraît problématique ?
Bah, de toute façon, il y a une étape à venir qui est déjà prévue dans la loi travail. Hein. Continuer la réécriture du code du travail en mode ce qui reste comme droit protecteur dans le code, ce qui peut être négocié dans les branches et les entreprises, et ce qu'on appelle le droit supplétif, c'est-à-dire ce qui reste à défaut d'accord, puisque la CFDT a obtenu qu'on passe maintenant aux accords majoritaires. Donc, l'exemple que vient de donner Catherine sur le textile est emblématique. Une organisation syndicale majoritaire, quand elle ne veut pas d'un détricotage des droits dans l'entreprise, ce détricotage n'arrive pas, hein, grâce aux accords majoritaires que nous avons défendus. Mais moi, ce que je note dans le petit son que vous avez passé d'Emmanuel Macron, c'est la contradiction, parce qu'il commence par dire « Oh là là, mais c'est plus possible, on est dans un pays où la loi définit tout et finalement ça suffit, maintenant il faut contractualiser, il faut faire confiance au contrat. » Et puis en même temps, il nous explique que le contrat, c'est bien dans l'entreprise, mais que quand même, le dialogue social au niveau national, ça n'a plus tellement lieu d'être, et que de surcroît, va nationaliser l'assurance chômage. Donc il y a une espèce de contradiction quand même dans le discours. Il faudra qu'il approfondisse un peu ça et à l'occasion, s'il est élu, on l'aidera probablement dans les discussions qu'on aura avec lui.
Oui, parce que, donnez-moi juste une petite parenthèse hein, sur l'assurance chômage. Il y a effectivement le projet chez Emmanuel Macron que l'État reprenne en main la gestion, qui est aujourd'hui une gestion paritaire voilà, avec notamment comme argument, en tout cas, peut-être pas chez Emmanuel Macron, mais c'est ce que j'ai pu lire aujourd'hui dans un article des quelques échos, le fait qu'il y ait un important déficit aujourd'hui de l'UNEDIC qui justifierait peut-être que l'on sorte cette gestion des partenaires sociaux.
Le déficit de l'UNEDIC, c'est la bonne démonstration qu'il y a un lien étroit entre la politique économique et les négociations que mènent les partenaires sociaux. Il y a un déficit important de l'UNEDIC. Pourquoi ? Pour deux, trois raisons principales. La première, l'UNEDIC, l'assurance chômage, finance Pôle emploi. Pôle emploi, c'est une agence de l'État. Normalement, il n'y a aucune... l'UNEDIC est d'accord pour participer au financement de Pôle emploi. Mais il se trouve que les règles de calcul sont un peu compliquées. De plus en plus, ce sont les partenaires sociaux qui financent Pôle emploi et de moins en moins l'État. Donc si l'État reprenait sa responsabilité dans le financement de Pôle emploi, premièrement, ça irait mieux. Deuxièmement, l'État... en réformant les régimes de retraite, ce qu'il a le droit de faire, en mettant fin aux pré-retraites, ce qu'il a également le droit de faire, il a déporté sur l'assurance chômage un certain nombre de dépenses que l'assurance chômage n'avait pas avant. Donc maintenant, il est quand même un petit peu malvenu, l'État, de venir nous expliquer que le régime est en déficit. Je ne vous parle même pas du comportement de l'État sur la question des intermittents du spectacle, qui, refusant de prendre sa part du financement de l'art et de la culture dans ce pays, fait peser des charges sur le régime. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à discuter là-dessus avec l'État. Moi, ce que je dis sur l'assurance chômage, c'est que oui, il y a des sujets qu'on veut bien aborder, y compris qui sont dans le programme d'Emmanuel Macron, la démission, les professionnels autonomes, etc. Ok, mais de là à remettre en cause la gestion des partenaires sociaux qui ont su faire évoluer le régime pour mieux prendre en compte les évolutions du marché du travail et notamment sa précarisation croissante, je trouve que c'est une vision justement étatiste et pas de la contractualisation qu'il défend.
Bon, étant donné la composition de notre plateau ce soir, j'imagine qu'il n'y aura pas forcément de profonds désaccords sur ce sujet, encore qu'on ne sait jamais. François Omeril et Catherine Perret. François Omeril.
Non, sur l'UNEDIC, je partage totalement le constat. Moi, j'irais même jusqu'à dire, sans être provocateur, que c'est plutôt un exemple de bonne gestion, l'UNEDIC. 10 ans de crise, 10 millions de chômeurs et finalement... 10% de chômage, excusez-moi.
Mais il y en a suffisamment comme ça pour pas.
Voilà, il y en a suffisamment comme ça, n'en rajoutons pas. Avec finalement un régime qui certes est en déficit, mais pour les raisons que Véronique vient de rappeler. Moi, je voudrais dire trois choses. La première, donc, sur l'UNEDIC. 35 milliards d'euros, c'est à peu près le volume financier que représente l'activité de l'UNEDIC. Si on l'étatise, qu'est-ce qu'on étatise? Qu'est-ce qu'on met à la charge du contribuable? Et qu'est-ce qu'on remet dans le privé pour ceux qui veulent s'assurer au-delà du minimum? Cette question-là n'a, de notre point de vue, pas suffisamment été dans le débat. Aujourd'hui, l'UNEDIC, c'est de la solidarité intergénérationnelle et c'est de la générosité, c'est de la solidarité intercatégorielle. Et pour nous, c'est extrêmement important dans la construction de la solidarité sociale.
Cette reprise en main, elle est aussi avancée par Emmanuel Macron comme une des conditions de son extension aux indépendants et aux salariés qui pourraient choisir de démissionner. Là, on est justement dans quelque chose de plus généreux, a priori.
Mais moi, je ne vois pas en quoi, l'un serait soumis à l'autre. Reprendre la gestion par l'État et donc le faire financer par le contribuable, ça ne répond pas à toutes les questions qui sont posées, et notamment par l'assurance de la totalité du salaire suivant les catégories. Et donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de non-dits sur le sujet. Moi, je pense que l'extension du régime est d'une certaine forme de garantie par rapport au risque que prennent les gens qui ne vont pas forcément dans le salariat est plutôt une bonne chose. Et sur ce plan-là, je pense que...
Elle est dans le programme de travail des partenaires sociaux, cette
extension. Oui, en plus, c'est dans notre programme, et chacun est ouvert à en discuter. On n'est pas obligé de poser une méthode a priori. Ça n'est pas nécessaire. Je veux juste finir sur la question de la réforme par ordonnance. Mais quel est donc ce problème, si important soit-il, qui durerait depuis 30 ans et qu'il faille pour le régler, tout d'un coup, passer des ordonnances pendant l'été? Moi, je trouve quand même que la méthode est un peu suspecte. Si, effectivement, on a un problème depuis 30 ans, je pense qu'on peut passer peut-être 3 ou 6 mois pour l'examiner entre partenaires avec l'État pour voir quelles sont les meilleures solutions pour en sortir.
Catherine Perret.
Alors moi, je partage le fait que l'étatisation du régime, évidemment, ne serait pas la bonne solution, mais on oublie un interlocuteur quand même au milieu de tout ça, c'est le patronat. Passer à l'étatisation, c'est aussi dédouaner le patronat de ses obligations. Or, le patronat ne cesse de revendiquer une baisse du coût du travail et donc de moins en moins investir. Et nous, on pense qu'au contraire, justement, pour équilibrer les comptes de l'UNEDIC, eh bien, il faut que le patronat assume financièrement, par exemple, la précarisation générale. C'est pour ça qu'on défendait la taxation, une vraie taxation, des contrats courts, par exemple. Donc, il faut surtout pas, évidemment, quitter la table du paritarisme pour pouvoir pouvoir aller vers plus de responsabilité sociale des entreprises en matière de lutte contre la précarité. Et on verra que ça ira mieux. Mais en même temps,
c'est pas du tout parce que vous craignez de perdre de votre pouvoir, de vos prérogatives, que vous vous opposez à ça.
Les prérogatives, c'est du travail, c'est des responsabilités, c'est le souci des demandeurs d'emploi.
C'est les organisations syndicales qui ont créé. On verra. On a besoin de le rappeler là, peut-être, la sécurité sociale en 1945. On a fêté les 70 ans l'an dernier. La CGT a été l'origine, avec d'autres, de la production d'un film qui s'appelle La Sociale, qui a eu un certain succès en salle et qui rappelle bien justement que s'il n'y avait pas eu les syndicats, il n'y aurait pas de sécurité sociale dans ce pays. Et notamment, la question de l'assurance chômage, elle est au cœur de l'action des organisations syndicales. Et donc, je pense que là, il faut véritablement reconnaître le rôle du paritarisme dans ce domaine. Et puis, je souscris à ce que dit François aussi sur la question des ordonnances. Enfin, c'est quand même fort de café qu'un candidat qui dit il faut plus de dialogue social dans ce pays, dans la droite ligne d'ailleurs du quinquennat Hollande, hein, c'est ce qu'ils disent aussi, on va faire passer une ordonnance sociale à la veille du mois de juillet, au moment où les Français sont partis en vacances. Je rappelle juste une chose d'histoire, c'est que les ordonnances de 67 sur la sécurité sociale, elles sont passées aussi de la même façon, avec une opposition forte du monde du salariat, et quelques mois plus tard, il y avait mai 68. Donc il faudrait qu'il entende ça, Monsieur Macron, hein, avant d'être élu.
Mais est-ce que vous ne vous dites pas, les uns et les autres, je vais peut-être continuer à vous faire un petit peu bondir là pour terminer cette émission, que si on se retrouve aujourd'hui avec deux candidats finalistes pour ce second tour de la présidentielle, une donc Marine Le Pen qui remet en cause les organisations représentatives, un Emmanuel Macron qui, dans un tout autre registre, mais lui prévoit de légiférer par ordonnance sur la question du code du travail, est-ce que si on en est là, s'il n'y a pas aussi une responsabilité des partenaires sociaux et notamment des organisations syndicales qui avait il y a 5 ans a priori un boulevard devant elle avec la volonté de François Hollande de relancer le dialogue social, et on a plutôt l'impression que 5 ans après, ce qui a surtout marqué, ce sont les divisions du monde syndical davantage que leur capacité à travailler ensemble et à passer des accords nationaux ensemble, François-Henri.
Un mot sur les divisions. J'ai parlé tout à l'heure des plus de 30 000 accords signés dans les entreprises. Rappelez quand même.
Ça, ce sont les entreprises, mais ce n'est pas le niveau national.
Ils sont signés à plus de 80% par l'ensemble des syndicats qui sont présents. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre la diversité et la division. On représente à notre niveau, chacun d'où qu'il parle, une forme de diversité dans la représentation des salariés. Et nous, on pense que c'est une valeur ajoutée. Parce que justement, l'effort que l'on doit faire pour trouver des consensus nous amène à des solutions qui nous paraissent plus efficaces. Mais simplement, la question qui est posée, c'est une question de confiance. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez du pouvoir.
La confiance, ça se mérite.
Nous considérons que nous ne sommes pas le lieu de l'exercice d'un pouvoir. L'exercice du pouvoir, il est dans le monde exécutif. Nous exerçons une responsabilité dans le champ de la construction sociale, dans des conditions que le pouvoir, le vrai pouvoir, nous délègue. Et donc, il doit nous le déléguer dans un cadre dans lequel il nous fait confiance. Voilà, tout est là, la question est posée comme ça.
Véronique Descaques.
Moi, je crois que le principal reproche que nous pouvons nous faire à nous-mêmes, c'est de ne pas savoir expliquer tout ce qu'on a fait. Parce qu'on en a fait des réformes, on a transformé en profondeur le paysage et les règles sociales dans ce pays. L'accord national sur la sécurisation de l'emploi, en 2013, on a introduit des choses comme les droits rechargeables à l'assurance chômage, la généralisation de la complémentaire santé.
Mais vous n'étiez pas d'accord sur cet accord.
Mais on n'était pas d'accord, peu importe, il y a des organisations majoritaires qui ont signé cet accord, il a été transformé.
CFDT, CGC, CFTC ont voté pour, c'est ça? Et FO et CGT
l'ont signé, ils n'ont pas seulement fait que le voter, l'ont signé, et il a été transposé dans une loi. La réforme de la formation professionnelle, moi j'entends, quand j'entends les politiques faire des reproches au système de formation professionnelle, disant tout cet argent utilisé par les syndicats pour les salariés, gaspillé, pas attribué suffisamment aux chômeurs, etc. Ce sont des gens qui sont restés bloqués avant 2014, qui n'ont même pas compris que justement les partenaires sociaux ont profondément réformé la formation professionnelle pour orienter beaucoup plus les flux de formation vers les demandeurs d'emploi. Et j'en passe, la modernisation du dialogue social, certes, la négociation n'a pas abouti, mais elle a permis quand même, en ayant à trancher un certain nombre d'éléments, une loi sur l'évolution de la représentation du personnel, et j'en passe. L'assurance chômage, je l'ai dit, donc je pense que, oui, c'est ça, le principal reproche qu'on pourrait nous faire, c'est de ne pas savoir bien expliquer, bien vendre, entre guillemets, tout ce qu'on a apporté au pays. Alors, il y a des politiques qui disent, ah c'est trop, c'est épouvantable, ils ont complètement libéralisé le marché du travail, et d'autres qui disent, c'est pas assez, il faut aller plus vite. Alors, moi, dans le « il faut aller plus vite » et de « je ferai par des ordonnances », j'entends que c'est peut-être le mandat que lui donneront les électeurs, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une phase avant de concertation, voire de négociation.
Bon, à l'avenir, Catherine Perret, vous allez mieux promouvoir.
Voilà, on n'a pas la même analyse que la CFDT, puisque nous n'avons pas signé ces accords que nous considérons, nous, soit inaboutis, soit régressifs pour le monde du travail. Et c'est ça le problème.
Vous avez mal communiqué sur les raisons qui ont fait que vous vous êtes opposé à certaines réformes.
Non, je crois qu'on a essayé de communiquer et surtout de proposer aussi des solutions alternatives. Nous, je pense qu'on a besoin de donner des espoirs aux gens et qu'ils pensent que quand on négocie, quand des syndicats autour de la table négocient, ça va leur apporter un mieux de manière très rapide sur leurs conditions de travail, sur leur niveau de rémunération. Et ça, c'est pas le cas.
Alors, il y a d'activité, droit rechargeable à l'assurance chômage, complémentaire santé, il y a quand même beaucoup de mieux dans ces dernières années.
La pénibilité, elle a pas d'existence, elle est remise en cause. Par exemple, la négociation autour du compte personnel d'activité, elle a fait
pouf parce que
le patronat n'en voulait pas. Donc, il y a plein de choses qui montrent.
Tout ne marche pas. Il y a des choses qui marchent, Catherine.
Beaucoup de choses ne marchent pas, y compris en formation professionnelle. On pourrait y revenir sur des niveaux dérisoires d'accès réel à une formation qui débouche sur une qualification. Parce que je rappelle que la qualification, derrière, c'est du salaire.
On pourrait y revenir, désiez-vous, Catherine Perret. Ben, vous savez quoi, on y reviendra. On aura évidemment d'autres occasions dans les semaines et dans les mois qui viennent de reparler de cette actualité sociale avec ceux qui la font et dont vous étiez les représentants ce soir. Merci beaucoup Véronique Descac, Catherine Perret et François Omeril d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Louise Fuseau, émission réalisée par Romain Masson, avec à la prise de son Élise Leu. Demain, diplomatie, comment rompre avec ses alliés. Ce sera une émission géopolitique à partir de 18h20.